Je descends d'immigrés, il y a des immigrés dans ma famille, mais moi, je viens. J'étais naturalisé à l'âge de 1 an, mes parents sont immigrés de Pologne, mais précisément, ils allaient dans une France qui était la France, et une France qui pouvait quand même s'assumer elle-même. J'avais lu cette déclaration du porte-parole, je crois, du comité contre l'islamophobie en France. Personne n'a le droit, pour nous, de définir l'identité française. Cette phrase, si l'on y réfléchit bien, est folle. Bien sûr que l'identité française se définit par la France.
Avant de retrouver comme un jeudi sur de l'eau, rendez-vous de la médiatrice des antennes de Radio France après 13h20, votre grande table des idées avec la sociologue Nathalie Hainik, sociologue au CNRS, auteur déjà de L'élite artiste puis du paradigme de l'art contemporain. Après Des valeurs, prix Pétrarque l'an dernier, ce que n'est pas l'identité, son nouvel essai, paraît aujourd'hui chez Gallimard dans la collection Le Débat, ou comment mettre en débat une notion utilisée à tort et à travers, semblant signifier tout et n'importe quoi, pouvant provoquer des réactions épidermiques aussi chez ceux qui ne s'y reconnaissent pas. De l'identité malheureuse d'Alain Finkielkraut, aux illusions identitaires de Jean-François Bayard, du malaise de l'identité d'Hervé Le Bras, aux identités ambiguës d'Étienne Balibar, de l'énigme de Marcel de Tienne, au piège d'identité de Gilles Finkelstein, Nathalie Hainik, elle, a choisi de définir l'identité au travers de ce qu'elle n'est pas. Délestée, allégée de toute connotation superflue, l'identité se définit aujourd'hui dans la perception qu'on a de nous-mêmes et dans le regard des autres. Une fois qu'on a dit ça, on est loin d'avoir tout dit. Bonjour Nathalie Hainik.
Bonjour.
Dans son dernier roman, La Maison Golden, Salman Rushdie a eu l'idée d'inventer un musée de l'identité qui aurait peut-être toute sa place dans cette nouvelle ère. Mais il faudrait quand même un grand, grand musée pour y abriter toutes les utilisations qu'on en fait de ce terme, de cette notion d'identité. Quelle serait pour vous la pièce centrale de la principale salle de ce musée? Qu'est-ce que vous y mettriez dans ce musée de l'identité?
D'abord, il faut dire que ce serait un Capharnaüm, hein, parce que vu la quantité de propos qui se tiennent autour de l'identité dans toutes sortes de contextes et de significations, c'est un grand débarras, et c'est justement pour ça que j'ai voulu clarifier un peu, faire de l'ordre tout simplement, et proposer une sorte de cartographie des différentes conceptions de l'identité, et arriver in fine quand même à une définition qui puisse être un petit peu éclairante. Et donc, dans un musée de l'identité, ben, il n'y a pas grand chose de concret, parce que l'identité, c'est d'abord une représentation, c'est une représentation mentale que nous nous faisons de ce que nous sommes, de ce que sont les autres, de ce que sont des entités abstraites telles qu'un pays, par exemple. Et donc, les représentations, c'est très difficile de les figurer. Alors, évidemment, elles sont arrimées à des objets, à des institutions. Donc, une carte d'identité est, par exemple, un bon objet pour évoquer ce que peut être l'identité, des visages, puisque que nous sommes aussi définis par notre visage, notre corps, des vêtements, notre apparence aussi nous définit. Pour ce qui est des entités abstraites comme le pays auquel nous appartenons, ben un drapeau, c'est typiquement un symbole d'identité, le fronton de l'Assemblée, etc. Bon, il y a toutes sortes hein, de signes et d'objets qui permettent de symboliser ce qu'est quelque chose ou ce qu'est quelqu'un, mais c'est extrêmement proliférant et multiple, et c'est pour ça que il est intéressant d'essayer de comprendre un petit peu comment ça se structure.
Vous dites que c'est impossible de les figurer, mais c'est aussi compliqué de les figer, et c'est le principe du musée, muséifier les identités. Ce serait les arrêter à un moment donné et les faire, les représenter tels qu'on les voit. Or, c'est une des principales leçons de ce nouvel essai que vous venez d'écrire. Ce que n'est pas l'identité, c'est que les identités sont extrêmement mouvantes aujourd'hui.
Alors, elles sont mouvantes, mais elles sont inégalement mouvantes. C'est-à-dire que elles ne sont pas... L'identité, contrairement à ce que beaucoup supposent, n'est pas une entité objective qui serait là une fois pour toutes, qui serait déjà là et que nous n'aurions plus qu'à décrire. Bon, c'est quelque chose qui se construit, qui se fabrique, qui se négocie, qui se raconte, et en même temps, ça n'est pas non plus quelque chose de totalement mouvant, qui n'arrêterait pas de bouger, qui ne serait arrimé à rien et qui pourrait se modifier à sa guise. Et ça, ce sont un petit peu les deux conceptions, la conception traditionnelle qui est la conception, disons, essentialiste, transcendantaliste, hein, d'un objet qui serait déjà là, et puis la conception plus moderne, plus actuelle, déconstructionniste, constructiviste, qui dirait c'est une construction sociale, et donc, d'une certaine façon, c'est totalement arbitraire et ça n'est rien. Je pense que ce sont deux illusions opposées, mais ce sont deux illusions, puisque, encore une fois, une représentation mentale collective partagée, ça n'est pas rien. C'est quelque chose, et c'est quelque chose qui est lié, qui est référé, qui est ancré dans des objets, dans des institutions, et qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec. On le voit bien aujourd'hui avec la question de l'identité sexuée. Beaucoup voudraient sortir d'une assignation à un genre, comme on dit, éventuellement changer de sexe, et on voit bien que c'est difficile, ça ne va pas de soi. Ça demande toutes sortes d'opérations compliquées, à la fois physiologiques, juridiques, administratives, etc. Donc, il y a évidemment une certaine possibilité de plasticité identitaire, mais qui n'est pas infinie. Et du même coup, l'idée d'un musée de l'identité serait en effet très problématique.
Alors, vous renvoyez effectivement les traditionnalistes et les modernes dos à dos, l'idée comme l'identité comme processus. Vous dites aussi que l'identité n'est ni de gauche ni de droite. Elle serait plutôt de gauche quand il s'agit des identités socio-culturelles et synonyme d'ouverture et de diversité, donc connotée positivement. Et elle serait résolument de droite quand elle touche à la nation comme une assignation avec toutes les connotations négatives qui peuvent aussi s'y attacher.
Oui, moi quand j'ai commencé à travailler sur la question de l'identité, c'était dans les années 80 et le mot était pratiquement absent et du vocabulaire de la sociologie française et du vocabulaire politique. Simplement, au début des années 80, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, on a vu quasiment pour la première fois la notion d'identité nationale revendiquée par la gauche contre les risques de dissolution par les Américains. Donc là, on était dans une problématique où l'identité était un vocabulaire de gauche. Et puis, de façon assez étonnante, une génération plus tard, dans les années 2000-2010, est monté en puissance le vocabulaire de l'identité dans le monde politique, mais plutôt à droite, avec l'idée de la conservation nécessaire des caractéristiques, disons, de l'identité nationale. Donc aujourd'hui, en France, le terme identité a été plutôt préempté par la droite, mais aujourd'hui, aux États-Unis, il est entièrement pris par la culture de gauche, puisque il y a tout un mouvement d'affirmation des identités dominées, notamment dominées du point de vue racial, du point de vue du sexe, etc. Et on voit comment le même terme et la même problématique peuvent avoir des connotations politiques totalement opposées, selon qu'il s'agit de défendre le maintien de, disons, cultures considérées comme dominantes, ou le maintien de cultures considérées comme dominé. Les anthropologues aujourd'hui n'hésitent absolument pas à parler d'identité lorsqu'il s'agit de parler de la façon dont des peuples perdent leur culture. Et là, pour eux, la notion d'identité est un outil positif. Bon, voilà. Donc on voit bien comment vouloir faire de cette problématique de l'identité une problématique politique est une erreur, et encore plus lorsque on veut l'identifier à un seul camp politique. Tous les camps politiques peuvent s'en emparer selon la façon dont ils l'utilisent.
Voilà, fixer des identités éternelles, est-ce là encore illusoire? Le mot illusion que vous venez d'employer, Nathalie Hennig, je vous propose d'écouter François de Smet, auteur de Lost Ego, la tragédie du je suis. Il insiste à son tour sur le caractère mouvant des identités.
Il y a une illusion d'optique due à la brièveté de nos vies. Tout ce qui nous constitue, sans exception, est passager. La couleur de peau, par exemple, la couleur de peau blanche, qui en fait est techniquement une décoloration, existe depuis seulement 8000 ans. Moi, ça me fait beaucoup rire de me dire qu'il y a 10000 ans, il n'y avait personne de blanc. Mais c'est la même chose pour la langue française qu'on est en train de parler. Elle aura changé, elle ne sera plus la même dans 500 ou 1000 ans. Idem pour les religions, idem pour les nations, idem tout ce qui nous compose. Seulement nous, on a des durées de vie malheureusement extrêmement brèves. On arrive à un moment de l'épisode et on a l'impression que tout ce qui nous compose est éternel. Et en fait, on s'attache de manière irrationnelle. Peut-être parce qu'on sait que tout ça, comme nous, va finir. Il y a quelque chose de primaire dans le fait que c'est le synonyme de notre propre finitude. On s'y accroche de manière démesurée, sans voir qu'en effet, d'une manière ou d'une autre, ça va disparaître. Donc, c'est une peur qui, à la fois, est irrationnelle sur les nombres. Par exemple, le migrant et le bouc émissaire, le migrant arrivé en 2015-2016 dans la grande vague, ça peut être inquiétant. Mais si on s'accroche aux valeurs et qu'on fait la différence entre les identités et les valeurs, et par exemple, la France peut être fière notamment de ses valeurs, alors il n'y a pas trop de raisons de s'inquiéter.
Alors, la question de notre propre finitude qui peut-être explique cette montée en puissance de cette notion d'identité aujourd'hui. Et François de Smet qui ajoute une pierre au débat qui devrait vous intéresser. Vous êtes effectivement l'auteur de Les Valeurs, je l'évoquais, et c'est paru l'an passé. Est-ce que vous êtes d'accord que ce qui restera, c'est les valeurs, pas les identités?
Alors oui, on peut en effet passer de l'une à l'autre assez facilement parce que ce sont dans les deux cas des représentations collectives plus ou moins partagées. Donc elles ont exactement le même statut, ce qui veut dire que les valeurs comme l'identité sont des entités qui peuvent évoluer. Simplement, elles n'évoluent pas forcément au même rythme selon l'échelle à laquelle on se place. Si on se place à l'échelle d'une vie humaine, les valeurs évoluent peu et les identités pas davantage lorsque l'on considère par exemple l'identité nationale. En revanche, si on se place à l'échelle de nations ou de l'humanité tout entière, à ce moment-là, sur des milliers de siècles ou voire des millions, les questions ne sont même plus accessibles à la notion d'évolution, tellement on n'a pas d'éléments pour le mesurer. Donc, comme toute chose humaine, il y a bien sûr une dimension d'évolution, ça va de soi, simplement on n'en est pas forcément conscient. Si on prend les choses à l'échelle disons d'une génération, et là je pense que on peut comprendre ce dont il s'agit. J'ai publié il y a quelques mois un petit livre qui s'appelle Une histoire de France, où je raconte l'histoire de deux familles qui se trouvent être mes deux familles, et où on voit bien comment se construit une identité française par le choix de l'exil dans un cas, une famille juive, et dans le choix de la fuite hors de leur région, l'Alsace, pour la famille protestante. Donc dans les deux cas, un choix d'exil pour construire et maintenir l'appartenance à un pays. Et on voit bien du même coup que cette appartenance n'est pas donnée a priori, elle est construite, elle est faite par les gens, elle est choisie, mais avec des possibilités de choix qui ne sont pas non plus totalement ouvertes. On ne fait pas complètement ce qu'on veut avec son identité nationale. D'ailleurs, changer de nationalité est très compliqué, hein, et pas toujours faisable. Et en même temps, on voit aussi dans ces deux cas comment leur choix civique d'appartenance à une nation se cumule avec un choix d'appartenance à une religion, les juifs dans un cas, les protestants de l'autre. Et on voit comment se construit cette sorte d'imbrication entre le fait de se définir par référence à un pays et le fait de se définir par référence à une religion. Les deux ne sont absolument pas incompatibles, simplement selon les contextes, on va plutôt insister sur l'un ou plutôt insister sur l'autre. Donc encore une fois, les choses sont mouvantes, mais elles ne sont pas manipulable à l'infini par les individus.
Alors l'identité nationale, c'est la plus politique de nos identités qui fait toujours couler beaucoup d'encre. On entendait en ouverture de l'émission le penseur concepteur de l'identité malheureuse, Alain Finkielkraut, nous dire que l'identité française, c'est la France. Ça, c'est une définition qui vous convient?
C'est un petit peu pléonastique, disons. Alors, tout dépend de ce dont on parle. Est-ce qu'on parle de la façon dont des individus se définissent eux-mêmes comme Français? Et à ce moment-là, il faut aller voir ce qu'ils entendent par là, ce que ça implique comme connotation, définition d'eux-mêmes, valeurs, etc. Ou bien est-ce que nous entendons par là l'identité d'une entité abstraite qui est la France? C'est quelque chose qui va s'arrimer à des institutions, à des symboles comme le drapeau, encore une fois, mais qui va faire l'objet d'une représentation mentale. Donc ce que l'on peut dire d'un point de vue, disons, objectif et, disons, sociologique, c'est la façon dont les gens définissent cette entité qu'est la France. Mais la France ne se définit pas elle-même. Ça n'est pas une personne qui serait capable d'avoir une réflexivité sur elle-même et de dire « moi je suis ceci ou cela ». Donc il faut toujours en passer, y compris par des entités apparemment aussi évidentes qu'une nation, il faut toujours en passer par la façon dont les gens se représentent cette entité, en l'occurrence cette nation.
Il nous vient d'où ce besoin de grands récits? C'est un peu le corollaire de ce que vous évoquez, cette montée en puissance du mot identité décennie après décennie. Pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça remplace, l'identité?
Ça peut remplacer toutes sortes de choses, mais notamment des évidences qui n'avaient même pas besoin d'être dites, qui étaient le fait d'être d'un village, le fait d'appartenir à une religion, et tout ça pendant très longtemps, du fait que la société était quand même très immobile, ne posait pas problème. Or, la question de l'identité, ça fait l'objet d'un des chapitres du livre, ne se pose que quand elle est en crise. En fait, c'est un objet assez particulier qui est transparent tant que tout va bien et qui commence à devenir extrêmement opaque et donc discuté dès lors qu'il y a crise et dès lors que ça ne va pas.
Et voilà,
crise,
et vous ajoutez que ça vaut d'ailleurs pour les identités individuelles comme pour les identités collectives.
Tout à fait. Moi, je l'ai surtout travaillé au niveau des identités individuelle. Je me suis beaucoup intéressée notamment aux crises d'identité posées par les écrivains qui ont eu des grands prix littéraires et qui voient tout d'un coup leur perception d'eux-mêmes, la façon dont ils se présentent à autrui, leur désignation par autrui se modifier profondément et quelquefois devenir assez incohérente, ou d'ailleurs quelquefois un peu plus cohérente. Je l'avais travaillé aussi avec Michael Pollack, qui avait fait des magnifiques travaux sur les crises d'identité en situation concentrationnaire, et c'est comme ça que j'avais été sensibiliser à cette question des crises d'identité. Je l'ai travaillé aussi à propos du mariage dans un livre sur l'identité féminine dans la fiction, puisqu'on voit comment dans certains cas, le simple fait de se marier pour une femme, et on le voit très bien raconté dans plein de romans, provoque des crises d'identité majeures. Alors, je ne vais pas les raconter ici, mais c'est absolument passionnant d'aborder la question de l'identité à travers des crises liées à ces moments apparemment aussi évidents et simples que le fait de se marier. D'autres crises d'identité peuvent être liées au fait d'être stigmatisé collectivement. Par exemple, pendant très longtemps, les homosexuels ont été stigmatisés. Aujourd'hui, les choses tendent à se renverser. Et bien évidemment, ça provoque des tensions, puisque entre la façon dont on se perçoit, la façon dont on se présente à autrui et la façon dont on est désigné par autrui, il peut y avoir de grandes incohérences, notamment lorsque l'identité est stigmatisée. Et j'ai aussi beaucoup réfléchi à cette question à propos de l'identité juive. D'ailleurs, la postface du livre consacré à cette question-là.
Et c'est la vôtre, parce qu'en écrivant ce livre, forcément, vous avez fait votre propre examen de conscience ou votre propre examen identitaire, ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas. Et vous allez aussi, tout au long de cet essai, chercher du côté des autres disciplines, pas simplement la sociologie, pas simplement la philosophie. Vous faites aussi un détour par la psychanalyse, l'identité sur le divan, souvent abordée sous l'angle du trouble et de la réparation. Il y a cette nouvelle obsession alimentée par peut-être l'importance de plus en plus grande accordée au moi aujourd'hui à la montée de l'individualisme dans nos sociétés, à notre identité. Question, écoutez Margaret Thatcher.
Certains socialistes semblent penser que les gens sont des nombres dans un ordinateur d'État. Nous pensons qu'ils devraient être des individus. Nous sommes tous inégaux. Grâce au ciel, aucune personne n'est semblable à une autre, malgré ce que prétendent les socialistes. Et nous pensons que tout le monde a le droit d'être inégal. Mais pour nous, chaque être humain est également important.
Alors, chaque être humain est également important, chaque individu, chaque identité a sa place dans le grand marché des identités.
Oui, alors là, Margaret Thatcher, à mon avis, si je peux me permettre, fait une erreur en confondant inégalité et différence. Nous sommes tous différents, bien évidemment, mais une différence n'engendre pas forcément une inégalité. Et c'est évidemment un problème politique majeur. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment constructions identitaires peuvent se faire soit sur l'affirmation d'une différence, je suis qui je suis et je ne ressemble à personne d'autre, mais peuvent se faire aussi sur l'affirmation de ressemblance, j'appartiens à tel collectif, j'appartiens à ma famille, j'appartiens à mon village, j'appartiens à ma religion, j'appartiens à mon pays, etc. Et ce qui est extraordinaire avec cette question de l'identité, c'est de voir quelle est les deux à la fois. Ce sont des définitions contradictoires, l'assimilation ou la différence, la similitude ou la distinction, et en même temps, si je peux dire, elles construisent l'une et l'autre notre rapport à l'identité. Nous pouvons, selon les moments, selon les contextes, nous définir par ce que nous sommes en tant que personne irréductible à tout autre et totalement spécifique, ou bien comme individu appartenant à un collectif. Et c'est heureusement la grande liberté que nous avons, et c'est la richesse de ce thème de l'identité. Pour un sociologue, c'est un objet magnifique, parce qu'il y a tellement de façons pour les gens de construire leur sentiment de ce qu'ils sont, mais en même temps, ce sont des façons tout à fait structurées, on ne fait pas n'importe quoi avec l'identité, et c'est aussi ce que j'ai essayé de montrer dans le livre.
Et cette double assignation, je vous propose d'écouter un dernier témoignage qui l'illustre bien, les mots de la romancière franco-sénégalaise Fatou Diom.
Donc celui qui nous a imposé le débat sur l'identité nationale, par exemple, Marianne lui a dit « Bienvenue ». Et moi, quand je suis venue, Marianne m'a dit « Bienvenue ». Sauf que lui, en une génération, il peut faire oublier ses origines étrangères puisqu'il peut se fondre exactement comme un sous-marin dans l'anonymat chromatique. Ce que moi, je ne peux pas faire puisque le chocolat me trahit. C'est une gourmandise. Je n'y peux rien, donc ça se voit. Mais lui, il peut se cacher et dire ben, « J'étais là, je suis venue d'ailleurs, mais personne ne le voit plus ». Alors que les Asiatiques, les Arabes, les Noirs, des générations après, on porte encore le poids de nos origines. Et donc, mon compatriote policier va me demander mes papiers avec un œil acéré, il va tout vérifier. Mais le Néo-Zélandais, là, le baroudeur paumé ici, mal rasé, qui ne parle pas un traître mot de la langue de Marianne, eh bien, lui, il a la couleur de l'identité nationale, donc il a une paix royale. Et ça aussi, c'est la force de son passeport, parce que Schengen lui permet de voyager en paix. Donc, il ne sera pas contrôlé, alors que moi, venant de Strasbourg, on va me demander mes papiers, alors que je suis là, en train de prendre racine depuis des dizaines d'années. Mais on ne le voit pas sur mon visage.
Voilà, elle doit d'un côté être solidaire, Fatou Diop, et d'un autre côté, on lui renvoie tout le temps sa singularité, son étrangeté, le fait qu'elle est différente.
C'est tout le problème des identités stigmatisées. Alors, oui. Évidemment, pour les Noirs, je l'ai dit pour les homosexuels, en tout cas, il y a au moins une génération, et maintenant encore, selon les milieux sociaux et les pays, pour les femmes aussi. Il y a tout un combat qui se construit dans ces causes identitaires sur la question de savoir, est-ce que j'accepte l'assignation qui m'est faite à un collectif stigmatisé et du même coup je subis complètement ce stigmate, ou bien est-ce que je refuse cette assignation, je refuse cette différenciation, ou est-ce que je la revendique comme étant quelque chose de positif? Et on voit là l'évolution de ces causes, que ce soit la cause noire, homosexuelle, féministe, qui oscille en permanence entre la question de la désignation, comment est-ce que je suis désignée par autrui, est-ce que j'accepte d'être réduite à cette définition, à cette identité collective, ou bien la présentation que je fais de moi-même et la perception que j'ai de moi-même. Et c'est cette sorte de dynamique qui se fait en permanence et qui, selon les contextes, permet aux individus de se situer plus ou moins par rapport à ces, disons, collectifs d'identification.
Alors la grande question, c'est comment ces identités privées ont aujourd'hui pris tellement de place dans l'espace public. Comment on en est arrivé à vouloir peser dans le débat public en affirmant nos identités privées, que ce soit des appartenances à une communauté ou des orientations
sexuelles. Le problème, c'est que ce ne sont pas des identités privées, ce sont des identités collectives. Toutes ces causes identitaires qui aujourd'hui font vraiment la base de la politique aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, en ce moment, le mot identité est un mot de gauche et revendiqué par tous les groupes qui militent pour la reconnaissance des droits des Afro-Américains, des femmes néocolonisées, etc., etc. Bon, ces identités-là ne sont pas des identités personnelles, privées. Elles sont des identités collectives puisqu'elles se construisent dans l'affirmation d'une appartenance à un collectif. Voilà. Donc, alors évidemment, elles se retraduisent sous forme privée, notamment par le visage, comme le disait Fatou Diop tout à l'heure. On peut rien changer à la couleur de sa peau. On peut pas changer grand-chose à son sexe. C'est un aller-retour, un va-et-vient permanent entre la dimension la plus personnelle, la plus intime, la plus corporelle, et la dimension la plus collective, qui est le fait d'appartenir à un groupe qui sera désigné comme les Noirs, les femmes, les homosexuels, etc.
Quand et comment les identités entrent-elles en crise? Je vous propose de repartir du côté des identités collectives. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, en Italie, en Pologne, en Hongrie, la montée des nationalismes s'explique aussi par un ressenti collectif, un moi collectif un peu brisé, stigmatisé? Est-ce que là, vous diriez que dans ces pays, les identités sont entrées en crise, ce qui explique cela?
Disons, on peut pas le dire au niveau d'un pays, parce que dans ces pays-là, il y a une partie des gens qui, en effet, sont hypersensibles à la question des migrants et à la question du maintien, disons, d'une identité nationale. Mais il y a aussi des tas de gens qui ne sont pas du tout sur cette base-là. Donc, je crois qu'il faut faire la part des choses. C'est pas quand même, heureusement, un mouvement absolument unanime. Mais je crois qu'il faut remonter un petit peu en arrière et voir que tout collectif dont les conditions de vie évoluent,
est forcément exposé à la tentation de se replier sur le passé, tout simplement. La passion pour le patrimoine, qui s'est développée à partir des années 70 en France et en Europe en général, est une passion qui est directement liée à la conscience de la perte liée à la modernité, à l'industrialisation et à tous ces phénomènes de modernisation. Voilà, c'est aussi une façon de s'arrimer à une identité liée à des objets, liée à des monuments, liée à des traditions, et c'est quelque chose qui ne nous paraît pas particulièrement problématique. Donc tout dépend de la façon, évidemment, dont cette gestion de la crise identitaire par évolution des choses est gérée par les gens. Et là, c'est là que la politique intervient, avec des choix, des choix d'acceptation, de repli. Mais en effet, je pense qu'il est important de comprendre les motivations profondes de ces sentiments d'appartenance collective qui sont importantes pour les gens qui construisent, tout le monde construit d'ailleurs son identité dans ses consciences d'appartenir à des collectifs tout en étant un individu à nul autre pareil.
Alors, chemin faisant, vous l'avez trouvé, vous, votre identité, et on terminera là-dessus, Nathalie Hennick, vous êtes qui?
Oui, bah, justement, en tant que sociologue, je peux parler comme ça, je suis très sensible au contexte, et ici, dans le contexte de ce studio, je pourrais dire, justement, vous m'avez présenté comme ça, que je suis définie par mon identité professionnelle, et donc je suis sociologue. Dans un autre contexte, ce sera autre chose.
Voilà, vous avez remarqué, je ne suis pas allée sur les autres identités.
Voilà.
Bien, merci beaucoup à vous, Nathalie Hennick. Ce que n'est pas l'identité paraît aujourd'hui, c'est votre nouvel essai dans la collection Débat chez Gallimard. Et puis rappelons que vous venez effectivement aussi de publier Une histoire de France, un livre d'éco-histoire où vous mêlez littérature et subjectivité et retracez l'histoire, la grande histoire à travers votre histoire familiale. Merci beaucoup à vous. France Culture, il est 13h23.
La Grande Table, le rendez-vous de la médiatrice.
Et nous sommes jeudi, et au menu de votre rendez-vous, chère médiatrice, le sermon de l'archevêque d'Avignon, la marque Carrefour dans les bonnes choses, et la présence de la journaliste Charlotte Dornelas dans la fabrique médiatique. Bonjour Emmanuel Davier.
Bonjour Olivia. Effectivement, on commence avec l'homélie de l'archevêque d'Avignon, diffusée en direct le 15 juillet dernier sur France Culture. Le service du médiateur avait alors reçu énormément de courriers d'auditeurs. Et nous y revenons aujourd'hui, car la direction de France Culture a récemment rencontré la conférence des évêques. Sandrine Trainer, bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel Davier, bonjour à tous.
Alors avant d'évoquer ce rendez-vous, pouvez-vous nous rappeler dans quel cadre cette homélie a été diffusée ?
Ah, le cadre est un cadre extrêmement classique, comme vous le savez, comme les auditeurs le savent. La messe est diffusée chaque semaine, surtout tout au long de la grille, tout au long de l'année, le dimanche à 10h jusqu'à 11h. Et en l'occurrence, l'épisode dont vous parlez s'inscrit dans le cadre, comme vous venez de le dire, de la messe du 15 juillet. Jusque-là, tout est très classique.
Qu'attendiez-vous du rendez-vous avec la conférence des évêques ?
D'abord, ouvrir un espace de débat avec eux et d'échange, leur retranscrire ce qu'a été notre réaction à France Culture et la réaction de nombreux auditeurs, comme vous le mentionnez, et puis les informer également que les auditeurs s'étaient adressés également au CSA et que je serai amené, dans les temps qui viennent, sans doute, à aller évoquer ce sujet avec le CSA, donc je voulais avoir leur position et leur exprimer la mienne.
Et alors, quelle a été leur position ?
Je crois que il faut commencer par dire que nous avons eu une rencontre qui était une rencontre apaisée, qui est une rencontre courtoise. Nous travaillons ensemble depuis que la radio existe quasiment, et je me dois de souligner quand même que c'était la première fois que nous rencontrions un problème. Écoutez, vous pensez bien, pour la conférence des évêques de France, ce serait un peu singulier, mais je pense que l'on peut dire qu'à la fois ils ont compris les réactions des auditeurs, que donc à ce titre-là, évidemment, ils ont regretté ce qui s'était produit, dans le même temps qu'ils ont fait valoir le fait que les positions de l'Église en un certain nombre de sujets là, par exemple, sur la question de l'avortement, était clair et sans doute peu consensuel, pas consensuel, mais qu'il l'assumait. Moi, du reste, que les positions de l'Église en matière d'avortement s'expriment dans le cadre d'un débat pluraliste dans une émission de France Culture ne me pose évidemment aucun problème, dès lors que les points de vue sont contradictoires et équilibrés, ce qui me posait question, outre une allusion vraiment extrêmement regrettable à l'encontre de Simone Veil. La question que ça posait pour moi était évidemment celui de du cadre de cette expression en tant que telle.
Alors précisément au sujet du cadre, plutôt que la diffusion de la messe en direct, ne pourrait-on pas imaginer une émission sur la culture chrétienne, interroge les auditeurs.
Eh bien, dans l'absolu, si la conférence des évêques en décidait ainsi, le souhaitait, dans une discussion avec le bureau des cultes du ministère de l'Intérieur et avec Radio France, ou en l'espèce avec France Culture, ce serait évidemment envisageable. Rien ne s'y oppose.
Autre sujet, le 23 septembre dernier, dans son émission intitulée « Bien manger est-il réservé aux riches ?», Caroline Brouet recevait Laurent Vallée, secrétaire général du groupe Carrefour. Cette émission a fait réagir des auditeurs, tribune d'autopromotion, de publi-reportage pour cette marque de la grande distribution. Qu'est-ce que vous répondez à ces qualificatifs ?
Ces qualificatifs me semblent très exagérés d'une part, mais ça c'est des qualificatifs en eux-mêmes et c'est la loi du genre quand on proteste. Écoutez, je crois tout simplement pouvoir expliquer que le sujet de l'émission n'était pas la mise en cause des marques de grande distribution. Le sujet n'était pas celui-là. Le sujet était d'une certaine façon presque plus essentiel que cela, puisqu'il était question de rapports qui venaient de sortir sur la précarité alimentaire. Et je pense que Caroline Brouet a eu bien raison, fort raison, dans le cadre de cette émission, qui est une nouvelle émission, de montrer qu'elle s'intéressera aux enjeux de l'alimentation, y compris dans cette acception-là. Pour traiter de ce sujet, il y avait en plateau un sociologue et effectivement un représentant de la marque Carrefour, ce qui je crois était tout à fait justifié dans la mesure où la grande distribution a beaucoup à faire puisque c'est elle qui est un des lieux où les gens viennent s'alimenter. Bon, l'émission aurait pu être peut-être plus musclée que cela. Je crois que c'était tout simplement ni le cadre, ni le lieu, ni le sujet. Je ne crois pas par ailleurs qu'il y ait été fait aucune publicité. Caroline Brouet a rappelé l'affaire Lactalis, a rappelé que Carrefour avait été impliqué dans la question durant le scandale des lasagnes à viande de cheval. Donc voilà. Néanmoins, nous avons des lieux de débat. Il y aura un lieu de débat consacré à la question de la grande distribution. Ce sera dans Du Grain à Moutre mardi prochain chez Hervé Gardette. Voilà. Je crois que c'est vraiment une question d'esprit d'émission. Il n'y avait pas d'intention de promotion. Nous ne sommes pas achetés par la marque Carrefour.
Très bien. Pour terminer, Sandrine Trainer, Éric Zemmour a-t-il encore sa place dans les médias ? C'était la question posée dans la Fabrique médiatique samedi dernier. Pour y répondre, au micro de France Culture, Pouria Amirchaï, directeur de l'hebdomadaire Politis, et Charlotte Dornelas, de Valeurs Actuelles, la présence de cette dernière a suscité beaucoup de réactions et d'interpellations, notamment sur les réseaux sociaux. Vous êtes-vous posé la question de votre responsabilité à légitimer le statut de journaliste à des personnes qui ont le même rapport à la vérité et à la déontologie que Trump ? Interroge un auditeur.
Écoutez, ma réponse va être très très rapide, d'une part parce que le temps est écoulé, mais également parce qu'elle va être très rapide. C'était un débat parfaitement équilibré entre deux positions tout à fait antagonistes, celle de Politis et celle de cette journaliste qui est journaliste à Valeurs Actuelles. Donc pour moi, il n'y a pas de sujet. Je n'ai d'ailleurs reçu aucune plainte contre l'expression du journaliste de Politis. Je m'étonne que l'on ne puisse pas entendre deux positions, quelle que soit après l'avis des auditeurs. Ils sont là pour additionner 2 + 2, on n'est pas là pour penser à leur place.
Merci Sandrine Trainer.
Et merci à vous Emmanuel Davier. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau rendez-vous de la médiatrice. Un grand merci enfin à toute l'équipe de la Grande Table. Rapidement, Organe de la Croix et Henri Leblanc, Maya Neskovic et Laura Dutèche, avec l'aide précieuse de Jordan Joseph et de Jeanne Copé. À la réalisation aujourd'hui, Gaëlle Gilon avec Emmanuel Morstincan. Je vous souhaite un très bel après-midi à tous sur France Culture.